Bezrat Hashem, donc notre quatrième cours sur, et quatrième et dernier cours, sur la lettre numéro 26. D'accord, donc tenez, je vous donne. Donc on est en la page 289. Tiens, je tenais le plus vite. Page 289. Et désolé, il nous manque des livres, on n'a pas tout retrouvé là avec le.
Je suis
arrangé, il en manque, je sais pas où ils sont. Donc on est à la page 289 à Aval Betzet Ashrina ici. D'accord, donc aux deux tiers de la page. Donc je fais un petit rappel rapide de ce qu'on a pu expliquer déjà dans ces quatre premiers cours. On a eu beaucoup de sujets, donc on pourra pas tout résumer, mais au moins on va au moins rappeler quelques petites notions. On avait expliqué déjà une notion fondamentale, la différence qu'il y avait entre l'étude du Zohar, donc l'étude de la Kabbalah, et l'étude de la Gemara en général. On a expliqué que quand on étudie la Gemara, il y a toujours des questions et des réponses. Donc on s'est posé la question, surtout la semaine dernière et la semaine d'avant, quelle est la définition, bonsoir, quelle est la définition d'une question ? D'accord ? Oh, bonsoir. C'est quoi la définition d'une question et d'une réponse? Pourquoi il y a des questions? Pourquoi il y a des réponses? Alors que dans le Zohar, qu'est-ce qu'on a expliqué? Dans le Zohar, il n'y a pas de questions. C'est directement la vérité. Alors, je vais directement à la conclusion qu'on est arrivé la semaine dernière, parce que si on devrait refaire quatre cours, maintenant, ça prendrait trop de temps. On est arrivé à une conclusion extraordinaire la semaine dernière. Pour moi, c'est un chidouche énorme. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il a expliqué qu'en vérité, chacun de nous a des chidouchim qui est que lui qui peut trouver. C'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de nifla.
On complète les.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement pour essayer de comprendre ce que les autres ont dit. On est là pour comprendre ce qu'il n'y a que nous qui pouvons trouver.
Ils sont
extraordinaire.
Ils
sont chacun de nous. Expliquez cette manière pour ceux qui étaient à ce moment-là. On a enregistré, sinon vous pouvez recouter le coup. Vraiment, ouais. Ça pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça donne un sens à la vie, tu comprends? Vous savez, les gens aujourd'hui, surtout dans les affaires, ils sont là à essayer de survivre. Mais imagine-toi que maintenant, quand tu nais, on te dit qu'il y a un concept en business qu'il n'y a que toi qui pourras créer et personne d'autre. Et tu dois le faire. Et ne meurs pas avant de le faire, parce que sinon tu devrais redescendre pour le faire. T'imagines, tu te sens utile.
Ah ouais,
c'est pas mal
de redescendre. Moi, finalement, ça rejoint.
Tu te sens utile, tu te dis pas, je suis là en train d'essayer de survivre, de gagner ma paye. Tu te dis, attends, le monde va se rappeler de moi.
Excusez-moi, mais le dire. Finalement, ça rejoint le cours que l'on avait fait sur les mitzvot au tout début.
Oui.
C'est-à-dire qu'en réalité, une neshama, elle peut pas remonter définitivement.
Ah, c'est ce qu'il avait dit la semaine dernière. Tu as raison. Ça rejoint.
Jusqu'à les 600.
Mais là, c'est parti encore plus loin que ça.
D'accord. Okay.
Pourquoi? Parce que là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que dans l'étude de la Torah, il y a des chidushim qu'il y a que moi qui peux trouver.
D'accord.
Donc, chazak, hein, monsieur Bismuth. Pas la kavod. Il nous manque 2-3 tanya, mais bon. Alors.
Les petits, ils se baladent là-dedans, ils sont pas là-bas. Hein.
D'accord, bon, on a trouvé ce qu'on a pu, Razak. Donc en tout cas, voilà ce qu'on a expliqué. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, qu'en vérité, quand maintenant on est en train d'étudier la Torah, quand on se pose des questions, on est en train, alors le dernier point qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que quand on étudie la Torah, et que quand on se pose des fois des questions dans notre étude, et qu'il y a des fois des questions qu'il n'y a que nous qui nous posons. Vous savez, des fois on pose une question, on écoute un cours, on pose une question au Rav, et le Rav n'est pas dérangé par la question, et visiblement, personne ne s'est posé la question. Donc, c'est ma question. C'est moi le premier à me poser cette question. Il y a des questions que personne ne s'est jamais posées. Et bien, ces questions-là, on a expliqué que quand je vais me casser la tête pour essayer de trouver la réponse et de développer cette question, ce que je dois savoir, bonsoir, c'est que je suis en train de libérer une étincelle divine qui était prise en captivité par les forces du mal. Je vous ai expliqué la semaine dernière. Bon, je reviendrai pas dessus. Le thème du cours d'aujourd'hui, d'accord, c'est qu'est-ce qui se passe, bonsoir, qu'est-ce qui se passe lorsque Mashiach va venir? Parce que tout ça, c'est bien beau aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, quand tu fais une bracha sur un verre d'eau, quand tu fais une bracha sur un aliment, tu élèves l'étincelle divine qui est bloquée dans cet aliment, tu la fais monter chez Dieu, etc. Quand tu étudies la Torah et tu te casses la tête, tu récupères tout ça, tu mets tout ça vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est bien beau, mais aujourd'hui. Mais quand ma chère va venir?
Ça va continuer.
D'accord, j'ai compris, mais ça sert à quoi? Nous, aujourd'hui, maintenant, pourquoi on travaille? On travaille parce qu'on nous dit, un jour, tu auras ma chère. Et quand tu auras ma chère? Mais pourquoi tu travailles?
Pour t'améliorer davantage, pour essayer d'aller toujours plus loin.
Oui, mais nous, aujourd'hui, on fait la Torah et les mitzvot.
Toujours mieux.
D'accord? Dans le but de contrer le Yetzer Hara, dans le but de, ça veut dire, on a des buts très précis. D'accord? On étudie la Torah, on a expliqué c'est pour aller récupérer des étincelles divines, etc.
C'est pas tout mon temps? Non.
Donc, la question qu'on va se poser, même ceux qui n'étaient pas là au cours précédent, c'est pas grave. On va essayer de s'accrocher aujourd'hui. Vous savez, en passant, j'ouvre une petite parenthèse. On a appris ce matin dans Yom Yom, dans le commentaire du Yom Yom ce matin qu'on a étudié, on a appris que le jour de Shavuot, c'est un jour qui est aussi puissant que Rosh Hashanah, dans le sens. De la même manière qu'à Rosh Hashanah, quand on sonne le shofar, on dit qu'à ce moment-là, le Satan, il n'a pas son mot à dire. Le shofar, ça bouche la bouche du Satan. Il n'a pas son mot à dire. Même s'il veut essayer de t'embêter, etc., on lui ferme sa bouche. Eh bien, il a expliqué dans le commentaire de Yom Yom qu'on a lu ce matin, que de la même manière, à Shavuot, toutes les décisions qu'on prend sur l'étude de la Torah, on prend une décision, par exemple, de rajouter dans l'étude de la Torah, de rajouter 5 minutes de Torah par jour. Normalement, si j'avais pris cette décision pendant l'année, le Satan, d'accord, il serait tombé dessus, il serait arrangé pour que premier jour il y ait un empêchement, deuxième jour il y ait deux empêchements, troisième jour trois empêchements, jusqu'à la fin tu lâches. Mais toutes les décisions qu'on prend le jour de Shavuot,
ça reste
autour de l'étude de la Torah, Dieu il ferme la bouche au Satan, il lui dit toi tu te tais. Maintenant j'ai toujours mon livre à vite, de m'arrêter. Mais au moins le Satan il m'embêtera pas. Donc ne passez pas à côté de ce jour. Le jour de Shavuot, toutes les décisions que vous prenez, mercredi, jeudi, le Satan il a pas le droit de toucher. Dieu il met un veto sur ça, il dit toi tu touches pas à ça. C'est du sérieux, hein. Et j'ai déjà fait l'expérience. Je peux vous dire, c'est du tonnerre. Voilà. Je vous ai donné un petit secret, là. Ok. Donc, on va expliquer maintenant qu'est-ce qui va se passer quand Machar va venir. Alors, ça va être un cours très intéressant. Parce qu'en vérité, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fera quand Machar viendra? On va pas parler de ce qui va se passer quand Machar viendra. On va surtout parler du statut de la Torah et des mitzvot lorsque Machar viendra. Est-ce qu'on étudiera la même Torah? A priori, oui.
Bah oui.
D'accord? Mais est-ce que les mitzvot auront la même forme? Est-ce qu'on continuera à mettre des tefillines? D'accord? Quel sens ça aura? Parce que par exemple, c'est quoi les tefillines? Pourquoi on met les tefillines? Pour soumettre le cœur et l'esprit à Dieu. Mais quand Machar viendra, on n'aura plus d'Yetzer Hara. Donc si on n'a plus d'Yetzer Hara, il n'y a plus rien à soumettre.
Mais si, il y a toujours Dieu, il y a toujours à se soumettre à Dieu.
Non, non. J'ai compris. Le concept des tefillines au bras.
C'est pas,
et au cœur,
c'est pas vis-à-vis
c'est
du Yetzer Hara.
C'est écrit clairement, je crois, d'en haut.
C'est pas vis-à-vis du Yetzer Hara.
C'est pour soumettre le cœur et l'esprit à Dieu.
À Dieu, voilà. Mais donc c'est pas
donc c'est vis-à-vis soumettre. Ça veut dire quoi soumettre?
Ben, c'est vis-à-vis de Dieu.
Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est contre ça.
Non.
Oui, non. Ben oui.
Non.
Et c'est quoi soumettre?
Non.
C'est quoi une soumission?
C'est-à-dire à chaque fois que tu te mets à un roi, tu est là, tu te soumets.
Soumettre dans le sens soumission.
C'est Yetzer Hara qui te met.
Mais c'est dans le sens que je mets de côté mes sentiments. Je mets de côté ce que je voulais.
D'accord, mais c'est pas vis-à-vis de Yetzer Hara, c'est vis-à-vis du roi.
C'est Yetzer Hara.
Non. C'est une reconnaissance de.
Écoutez, on va. Écoutez ce que je vais expliquer, vous allez comprendre. Une soumission, ça veut dire que forcément, on écrase quelque chose pour arriver à une autre chose. C'est évident. C'est ça, la soumission. On est d'accord?
On peut pas être pas on est pour ou contre. Tu comprends? Dans l'histoire, là. À partir du moment où il y aura Machiach, on sera soumis. C'est-à-dire qu'on a, donc, il sera, parce que normalement, on devrait être soumis tout le temps, là.
Je vais te donner un exemple. Imagine-toi un employé qui est soumis à son patron. Ça veut dire quoi qu'il est soumis à son patron? Ça veut dire qu'il n'est pas forcément d'accord, mais comme il n'a pas le choix, parce que c'est le patron, d'accord?
Il bosse.
Donc il bosse, il écoute, il est soumis, il se tait. Mais on te dit que quand Machiach reviendra, instinctivement on sera soumis, parce que on n'aura pas envie de dire le contraire. Donc il n'y a plus besoin de parler de soumission, c'est même plus un effort. Alors quel sera le sens des tefillines? Exactement. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert les mitzvot? Quels sens auront les mitzvot? C'est ce qu'on va essayer de développer, vous inquiétez pas, on va tout développer.
Quels sens auront les mitzvot? Déjà, on a des contraintes. En vérité.
Alors est-ce qu'on continuera, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continuera à les accomplir physiquement? Oui ou non? Est-ce qu'on continuera à les accomplir physiquement? Est-ce qu'on étudiera la même Torah? Est-ce que dans la Torah qu'on étudiera, on parlera toujours des choses concrètes comme aujourd'hui, par exemple Shabbat, ne pas allumer le feu, ne pas faire ci, les petits détails comme ça, ou est-ce que ça changera? C'est des questions importantes.
Il y aura un nouveau tribunal, on pourra changer les...
J'ai compris, mais à part ça, je parle la nature des lois, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce qu'on va étudier?
Est-ce qu'elles vont passer par le conduit matériel?
Alors, ce qu'on va expliquer, d'accord? Alors, on y va. On va prendre, donc on est à la...
Voilà. Un nouveau tribunal, on pourra changer les lois.
Aval, mais. Donc, je suis à Aval. Vous avez la page 289? On va tout développer. Je suis au deuxième tiers de la page. Aval, mais. Betset Ashrina Miklipat Noga. Lorsque la Shrina sortira de Klipat Noga, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque la Shrina sortira de l'écorce dans laquelle elle est bloquée aujourd'hui. Ça, on l'a développé plusieurs fois. Qu'aujourd'hui, la Shrina est bloquée dans une écorce. Qu'on est obligé à chaque fois de récupérer, petit à petit, chaque fois qu'on étudie la Torah, chaque fois qu'on fait les mitzvot. Donc, le jour où Mashiach viendra et que la Shrina, ça y est, Baruch Hashem, maintenant, elle est libérée. C'est fini, elle est libre. Achar shiyushlam birur hanitzotzot. Une fois que Dieu aura décidé qu'on aura terminé birur hanitzotzot, ça veut dire qu'on aura terminé de récupérer toutes les étincelles divines. C'est bientôt, quand Mashiach va venir, dès que Dieu donne le déclic de Mashiach, ça veut dire qu'on a terminé de récupérer toutes les étincelles divines qui se sont perdues, que Dieu a placées dans la création du monde, comme une chasse au trésor, que Dieu a placées dans le monde entier. Donc, ils sont placés un peu partout. Par exemple, si on est encore ici à Paris, c'est qu'il y a des étincelles divines ici. D'accord. Quand Machar vient, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a terminé de les récupérer, ces étincelles. Veyufrad, Aram et Atov. Quand Machar viendra, le mal sera séparé du bien. Ça, c'est aussi un piège qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, le mal n'est pas séparé du bien. Ça veut dire, aujourd'hui, on te présente un projet, on te demande, d'après toi, c'est bon ou c'est mauvais? C'est très compliqué à répondre. Parce que des fois, t'as des particules qui sont bonnes, des particules qui sont mauvaises. On te présente un projet, on te présente un produit. On te parle d'une chose. tu dis, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais?
Tant pis qu'il y a du mauvais dans le bon. Et
exactement.
Du bon dans le
un des pièges qu'il y a dans l'exil aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est mélangé. C'est mélangé. Le bien est mélangé avec le mal est mélangé avec le bien. Et donc nous, notre travail, c'est d'être là à trier et de dire bon, c'est du bien, mais attention, ça il faut mettre de côté, ça il faut prendre, ça il faut pas prendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je veux dire parce que je vois que c'est un peu compliqué. On avait expliqué la semaine dernière que même quand on étudie la Gemara, même quand on étudie la Torah, ça peut nous procurer de l'orgueil. Donc, étudier la Torah, c'est bien ou c'est pas bien?
C'est bien.
Oui, mais l'orgueil, c'est bien ou c'est pas bien?
Ah non.
Non.
Wow. Faut savoir, donc,
d'accord?
Faut doser.
En l'honneur de Jaboua.
Je vais pas déranger.
Il est là, David?
Ah. Hein? Le téléphone, il est arrivé dans ta montre.
D'accord.
T'es tout seul, ça dire, en train de bosser, là? On l'a laissé seul!
Alors?
Je peux pas croire.
J'arrive.
On va donner à tout le monde, faut demander.
Exact.
Il faut des boissons.
Tu me referas un peu une certaine.
Donc. Achar sheyushlam birur anitotot veyufrad ara me'atov veyitpardu kol polev. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand Mashiach arrive. Nous aujourd'hui, puisque Mashiach n'est pas là, là tout le monde avec nous, puisque Mashiach n'est pas là, donc le mal n'est pas séparé du bien. Le mal est mélangé avec le bien. Donc c'est pour ça que nous notre travail aujourd'hui c'est de trier. C'est très compliqué aujourd'hui de dire. Imaginez si tout était évident. Ça c'est du bien, ça c'est du mal.
Pas de mérite.
D'accord? Pas seulement qu'il n'y a pas de mérite. Ça aurait été très facile. Aujourd'hui, une des parties des complexités de notre travail, c'est que nous-mêmes, on ne sait même pas certaines choses qu'on fait, si c'est bien, si c'est pas bien. C'est plein de zones grises comme ça. Quand ma chère viendra, le mal sera séparé du bien.
C'est-à-dire qu'il est visible.
Exactement. Ça veut dire que tu verras un truc, dès qu'il est mauvais, tu le vois mauvais. Veit pardou, kol po'ale aven. On le dit dans le Mizmar Shir Liyom HaShabbat, d'accord? Mizmar Shir Liyom HaShabbat. Quand on dit dans ce Mizmar Shir Liyom HaShabbat, de quel Shabbat on parle? On parle du millénaire qui sera Shabbat, qui est Mashiach. D'accord? Le grand Shabbat de l'histoire. Et là, qu'est-ce qu'il te dit là-bas dans ce Mizmar? Veit pardou kol po'ale aven. Ça veut dire toutes les forces du mal n'existeront plus. Alors tu dis, je comprends pas. Nous maintenant, aujourd'hui, chaque fois qu'on fait des mitzvot, une base, une constante dans les mitzvot et dans la Torah, c'est de dire qu'il y a un Yetzer Tov et qu'il y a un Yetzer Hara, qu'il y a une guerre entre les deux, et que c'est la guerre du bien contre le mal, et que des fois le mal y gagne, et nous on cherche à ce que le bien gagne. Je veux dire, ça c'est un message qu'on a entendu depuis qu'on est petit. C'est ça la Torah, les mitzvot. On a toujours appris que t'as un Yetzer Hara, t'as un Yetzer Tov, et tu dois te battre, et essaie de gagner ce que tu peux. C'est ce qu'on a toujours appris. À commencer par le schéma. Le schéma il te dit, tu aimeras Hachem ton Dieu, tu n'aimeras pas d'autres dieux. Si tu écoutes Hachem, voilà ce qui va se passer. Si tu ne l'écoutes pas, voilà ce qui va se passer. Tu ne détourneras pas tes yeux après des vues interdites. Tu devras aimer ton Dieu. Donc on voit toujours qu'il y a toujours ce... D'accord? Il y a toujours ce dualisme trazak, bien. Dans lequel on te dit... sors les mots sophistiqués, hein.
Dualité.
Donc, il y a toujours cette dualité dans laquelle on te dit... Soit tu regardes, soit tu peux suivre le mal, ou tu peux suivre le bien. Et c'est ça les mitzvot. C'est ça le sens que nous donnons aux mitzvot aujourd'hui. C'est le fait que j'essaye de donner la place au bien contre le mal. Mais quand ma chère va venir, puisque le mal sera complètement éradiqué, il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de mal. C'est-à-dire que ce sera évident pour tout le monde que le mal, c'est du mal.
Donc ça veut dire qu'on a le choix toujours de le faire ou de ne pas le faire, mais ça non,
t'as même plus de choix parce que c'est évident que tu ne veux pas le faire.
Ça veut dire qu'il y aura quand même du mal même quand il y aura le mal.
Regarde, je te donne un exemple. J'ai du coca devant moi. Le coca, c'est bon ou c'est pas bon? Hein?
C'est bon ou c'est pas bon? Les deux.
Le coca, c'est bon ou c'est pas bon?
C'est bon, mais ça fait grossir.
Il y a du bon et du mauvais. Voilà. D'accord? Il y a du bon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon?
Le goût.
Et il y a du mauvais. C'est quoi le mauvais? Le sucre. Maintenant, imagine-toi, quand ma chère arrivera, directement, tu verras que c'est du mal. Tu vas en prendre, tu vas voir si c'est du poison, tu vois. Tu vas en prendre? Bien sûr que tu vas pas en prendre. Il y a même pas de... C'est-à-dire, tout le conflit qu'il fait dans la vie aujourd'hui, tous les petits conflits qu'on a, c'est parce que, justement, il y a toujours du bon et du mauvais qui sont mélangés. Donc, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas, est-ce que je privilégie le bon ou je privilégie le mauvais? Mais quand ma chère va venir, je verrai la bouteille de coca, moi qui ai un grand amateur de coca, et je vais prendre ça comme du poison. Donc c'est évident que j'en prendrai pas. Je verrai le mal directement. Aujourd'hui, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on voit le bien et le mal. Donc, si tu me dis que quand ma chère va venir, on ne verra plus du tout le mal. On sera intéressé que par le bien. Donc du coup, il n'y a plus cette notion des mitzvot, de dire que les mitzvot, c'est que le Yetzer Hara et que c'est la guerre du mal contre le bien. Il n'y a plus cette notion. Alors s'il n'y a plus cette notion-là, c'est quoi le sens de la Torah des mitzvot? Vous comprenez ma question?
Ouais.
Est-ce que la question est claire? Ouais. On a un vrai problème ici.
Il n'y a plus le choix.
Moi je sais que depuis que j'étais enfant, toujours, et même mes enfants, c'est le message que je leur fais passer, toujours le message qui est entré dans notre tête, c'est que t'as un Yetzer Tov, t'as un Yetzer Hara, d'accord? Et tu dois combattre ton Yetzer Hara et écouter ton Yetzer Tov. C'est tout. C'est ça la Torah et les mitzvot. Toute la Torah, c'est comme ça. C'est quand Mashiach arrive et il n'y a plus d'effort, alors dans ce cas-là, quel est le sens? Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va continuer à faire les mitzvot? Il dit, Azaï, à ce moment-là, Lo yé esek à Torah va mitzvot le varé birun. Alors là, il le dit en quelques lignes et on va passer longtemps dessus. Lo yé esek à Torah va mitzvot le varé birun. Il te dit, tu sais, quand Mashiach va venir, alors l'occupation du monde ne sera plus comme aujourd'hui de rechercher des birourines, ça veut dire des étincelles perdues, de chercher le bien qui est caché dans le mal, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Non. Qui im seulement, les yachet ichunim elyonim yoter. Alors ça, il faut que j'explique un petit peu ce qu'il veut dire ici. D'abord, je traduis littéralement. Il dit, notre but quand Mashiach viendra, c'est, alors, vous allez pas comprendre tout de suite quand je vais le dire, donc on va devoir l'expliquer, c'est de faire des unifications plus élevées. De quoi on parle? Alors je vais expliquer. Mais vous savez, c'est très
simple. Il n'y a plus de, pour s'élever, il faut avoir quelque chose, un mérite.
J'ai compris, mais moi, ma question, c'est dans la base même de la Torah des mitzvot.
Non, mais justement, pour s'élever, c'est-à-dire qu'ici, on a toujours la possibilité de combattre et de s'élever.
J'ai compris.
Si on a pu s'élever, comment il peut s'élever?
On va expliquer. Regardez, par exemple, les 10 commandements. C'est quoi les 2 premiers commandements? Je suis Hachem ton Dieu, numéro 1, numéro 2. Tu n'auras pas d'autre. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on voit dans ces 2 commandements?
Une dualité.
Je suis Hachem ton Dieu, ça veut dire crois en moi. Tu n'auras point d'autre Dieu. Ça veut dire, tu seras peut-être attiré par d'autres dieux, mais ne va pas chercher d'autres dieux. Donc il y a toujours une dualité. Le jour où il n'y a plus de dualité, le jour où c'est évident aux yeux du monde que ça c'est du mal, personne ne le suivra. C'est évident qu'il n'y a même pas besoin d'un libre-arbitre pour ça. C'est évident que personne ne le suivra. Alors dans ce cas-là, la question qu'on se pose, c'est quoi? Quel sera le sens des mitzvot? Alors écoutez la réponse qu'il va donner ici, qu'on va développer. La réponse ici, c'est que quand Mashiach va venir, en vérité, on sera occupé à aller s'élever dans la Torah. À aller chercher, donc dans les mots qu'il a dit ici, c'est des ichudim plus élevés. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Très simple. Regardez. On vous dit que, on a appris il y a pas longtemps, c'était l'Akba Omer. L'Akba Omer, on nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai était caché dans la grotte pendant combien d'années? 13 ans. Qu'est-ce qu'il mangeait dans la grotte? Du karoub et de l'eau. D'accord. Et comment il a fait à Pessah? Qu'est-ce qu'il a mangé? Il avait mangé de matzah? Hein? Et comment il a fait à Soukot? Il avait un loulav? Il avait des tefilines?
Non.
Hein? Peut-être oui, peut-être non. Quel mitzvah encore il a pu lui manquer? Allez, on va réfléchir. Hein? Ah, loulav, il peut pas. Alors, comment il a fait?
Comment il a allumé les bougies?
En tout cas, il n'avait pas les beignets, le pauvre.
Bon, ça c'est pas une mitzvah. Comment il a fait? Comment il a fait? Alors écoutez bien. En vérité, ce qu'on va expliquer, c'est que dans chaque mitzvah, et ça je voudrais qu'on s'arrête dessus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Dans chaque mitzvah, il y a un sens, il y a un aspect matériel, ça c'est la forme, d'accord? Et il y a un sens profond, c'est le fond. Dans toutes les mitzvahs, c'est comme ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, il n'y a pas longtemps, c'était Pessah. C'est quoi la forme de Pessah? C'est la matzah. On mange la matzah. C'est quoi le fond de Pessah? Le fond, l'idée de Pessah, c'est quoi? Mais la matzah, qu'est-ce que nous montre comme message?
L'empressement d'être sorti des
juifs. L'empressement, oui. Quelle est la différence de la matzah au lieu du chametz? Donc, l'humilité. La matzah nous apprend l'humilité. D'accord. Je vous donne un autre exemple. C'est ça? La Pessah nous apprend l'humilité. Ça, c'est le fond de Pessah. J'arrive, deux secondes. Je vais vous donner d'autres mitzvot. On va prendre par exemple la mitzvah de la mezouza. On a une mezouza qui est accrochée ici. C'est quoi la forme de la mezouza?
Un parchemin
avec des choses écrites avec une certaine forme, un certain texte, avec un certain nombre de mots, 248 lettres. D'accord? Ça c'est la forme. C'est quoi le fond?
Protéger la maison.
C'est quoi le fond? Le fond de quand je mets la mezouza, c'est quoi? C'est que je me mets dans la tête quelque chose. Qu'est-ce que je me mets dans la tête? Que Hachem protège ma maison. Que c'est Hachem qui me protège. Donc vous voyez, il y a un fond, il y a une forme. La forme, c'est les parchemins, mais il y a un fond qui est derrière. Autre exemple. Au Beth Amikdash, on donnait les korbanot, les sacrifices. C'est quoi la forme? C'est quoi la forme du korban? D'accord? Un sacrifice, un animal, un agneau qu'on va faire brûler. D'accord? C'est quoi le fond? Le fond, dont le mot korban et le mot karov, qui veut dire je m'approche de Dieu. On est d'accord? Je m'approche de Dieu, ça veut dire que maintenant j'essaye d'être plus proche d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je vous donne encore un autre exemple. Une personne se marie. Il fait les kiddushin. Qu'est-ce qu'il donne à sa femme? Il lui donne une bague. D'accord? Il lui dit, arrête mes kodeshet libe et tabadzo kadat moshe ve Israël. D'accord? C'est quoi le fond? C'est quoi la forme, pardon? C'est la bague. La bague avec le texte. C'est quoi le fond?
Alliance.
Le fond, c'est qu'il décide de se dédier à sa femme et qu'il se met dans la tête qu'il est mekoudeshet, ça veut dire réservé, qu'il est réservé à cette femme. C'est-à-dire que dorénavant, il sera que pour cette femme. Et que de la même manière que cette femme est réservée pour lui, lui, il est réservé pour elle. Il y a un fond, il y a une forme. D'accord? Dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. Vous voulez donner d'autres mitzvot à la dame? Allez. Quelle mitzvot vous voulez comprendre? Toutes les mitzvot. La kashrout. C'est quoi le sens de la kashrout? Pourquoi on mange kashrout? C'est quoi la forme? C'est quoi la forme? La forme, c'est certaines choses on peut manger, d'autres choses on peut pas manger. Ça, c'est la forme. C'est quoi le fond? Le fond, je vais vous expliquer. Le fond, c'est très simple. Le fond, c'est que, ça c'est le Rabbeinu Bechaïe qui explique dans plusieurs endroits, il dit que les aliments ont un impact direct sur notre nature. Parce qu'on est ce qu'on mange. Et en vérité, tout ce que Kadosh Baruch Hu nous a protégé, ne pas manger la viande de certains animaux, ne pas manger certaines substances, c'est parce que ces substances ont un impact négatif sur notre personne. Parce que ce qu'on mange a un impact sur ce qu'on est. On est ce qu'on mange. D'accord? Ça, c'est le fond. Donc, le fond, c'est qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, il est en train de t'éduquer. Et pour t'éduquer, c'est pas seulement en disant des messages, c'est aussi en changeant ta vie. C'est ça, la kashrout. Manger kasher, c'est aussi être sain dans la tête. D'accord? Encore des exemples? Oui. Chaque mitzvah a un fond et une forme.
Et donc, par rapport à ça, on peut pas dire que...
Alors, justement, attendez, doucement. D'accord?
Non, il va libérer une fonction.
Doucement.
Qui n'est pas disponible aujourd'hui, c'est tout.
On a expliqué il y a deux semaines. Et donc il sera cachère. D'accord. Hein?
S'il sera cachère, il sera cher.
Il n'y aura plus d'intermédiaire.
Donc, maintenant, pourquoi je vous explique tout ça? D'accord? Rappelez-vous la question que je vous ai posée, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans la grotte. Comment il a fait?
D'accord?
Il a pratiqué les mitzvot seulement en mode fond, pas en mode forme. Bien sûr que nous, attention, je veux pas qu'on comprenne mal, on a l'obligation d'accomplir la forme des mitzvot. C'est une obligation. C'est le mode d'emploi, il faut le suivre. Mais il y a des fois, des cas, dans lesquels on te dit que quand tu étudies une mitzvah dans le fond, c'est comme si tu l'avais faite. Vous voulez un exemple? Allez, je vous donne un exemple. C'est écrit, tous les matins avant de commencer la tfila, on dit, Eizehu mekomat shezvachim. On lit toute la paracha des korbanot, la paracha des sacrifices. Alors, la Gemara a dit, à quoi ça sert? Tu veux me remuer le couteau dans la plaie, le Beit HaMikdash il est pas là, tu m'en parles en plus? Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara a dit que tout celui qui étudie les lois des sacrifices, c'est comme si qu'il a offert des sacrifices. Pourquoi? Comment c'est possible? C'est n'importe quoi. Tu parles d'un circuit automobile, c'est comme si tu étais. Ah non, si tu étais, tu es ou tu es pas. Eh ben non. Parce qu'il y a le fond et il y a la forme. D'accord? Il y a le fond et il y a la forme. Tu peux avoir le fond sans la forme, tu peux avoir la forme sans le fond. La forme est le plus important aujourd'hui. Mais quand on n'a pas le choix, on peut faire le fond aussi. Toutes les mitzvahs, c'est comme dans chaque mitzvah, il y a toujours un sens profond, une manière comment on explique la mitzvah spirituellement. D'accord. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple. Pareil, Shabbat, c'est très facile, Shabbat. Shabbat, c'est très facile. C'est quoi le sens du Shabbat? Allez, je vous laisse trouver tout seul. La forme du Shabbat, c'est quoi?
Le repos.
C'est quoi la forme du Shabbat? C'est que c'est un jour qui est dédié dans la semaine où on se comporte pas comme tous les autres jours. Un jour qui est dédié à Dieu. C'est quoi le fond? Ça c'est la forme. C'est quoi le fond maintenant?
Mettre en fait du monde. S'analyser.
C'est quoi le fond? Le fond du Shabbat, c'est quoi? Quel est le sens profond du Shabbat?
Se rapprocher de Dieu.
Plus que ça, il y a un sens encore plus profond que ça.
Honorer.
Non. Bien manger. C'est quoi le sens profond?
Se détacher du matériel.
C'est comprendre qu'en vérité, même si toute la semaine on est dépendant à 100% du matériel, parce que si tu travailles pas, ben, t'auras pas de quoi manger. D'accord? Si tu t'es obligé, tu peux pas passer toute la journée à faire tes prières et étudier la Torah. Mais, eh ben, il y a un jour dans la semaine où on se retire de tout ça pour dire que la vraie réalité, c'est qu'en vérité, on n'est pas dépendant de ça. La vraie réalité, c'est qu'en vérité, un juif, il devrait être constamment en train d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. Ça veut dire que comme on est Shabbat, c'est comme ça qu'on aurait dû être toute la semaine. Vous savez le sentiment qu'on a des fois quand t'es 3 jours de fête comme ça? Bon, c'est vrai que c'est un peu dur, mais le sentiment qu'on a, ça veut dire après, t'es complètement déconnecté. Complètement, c'est-à-dire que quand après tu reprends ton téléphone dans la main, tu reprends ton téléphone dans la main, il faut tout reprendre. Enfin, entre guillemets, ça prend quelques secondes, mais tu sens que t'as été complètement déconnecté.
Il faut dire que la gofra du kidouche,
elle y est, bien sûr. Ok. Donc, ce qu'on veut expliquer ici, c'est quoi? C'est que dans chaque mitzvah, il y a le fond et il y a la forme. Alors, il te dit comme ça. Il te dit, effectivement, quand ma chère viendra, effectivement, on se focalisera moins sur la forme. Parce que la forme ne sera plus parlante comme aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on a des parchemins, on a, comme on a dit, les téfilines pour soumettre le cœur, etc. On a des symboles qui sont très forts. il dit que quand Machiav reviendra, on se focalisera moins sur les symboles. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de faire les mitzvot, c'est pas ce que je suis en train de dire. Probablement qu'on continuera à accomplir ces symboles, mais on se focalisera plus sur le fond de la mitzvah. Et sur ça, on pourra toujours monter encore plus haut, ça, ça sera nos limites. Vous me suivez? On va donner des exemples, il va expliquer comment ça marche. Donc, dans les mots, on va lire ici. Il va même nous donner un exemple de gens qui se sont déjà comportés comme ça. Les Hamshir Orot Elyonim, donc les Kiim, les Yached, Yehudim et Yimioter, les Hamshir Orot Elyonim, les Shemal Meretzilut, que moi je connais pas Arizal. Ve'akol, Alide Pnimiyut Torah. Alors, on va prendre, en bas, il y a une parenthèse, ou Maché Amrou, j'ai pas le texte ici. Voilà. Deux lignes avant la fin de la page. Vous avez deux lignes avant la fin de la page?
Ouais.
Tu vois ou pas? Ah, oh là là, t'es parti là. Mais c'est chapitre 26.
Mais je te l'ai dit.
Cherche épistole 26. Épistole 26. Où est l'index là? Voilà, épistole 26.
T'écoutes pas, tu vois, tu vas faire fort. C'était long, hein.
Ah ouais, j'ai. Et si tu veux la traduction en anglais. Voilà, tiens. Alors, il dit comme ça. Il dit. Attends, excuse-moi.
Je vais faire des mots.
Non, non, pas du tout, je cherche le. J'ai pas l'habitude d'étudier ça. Voilà. Umash Amrou Razal, deux lignes avant la fin de la page. Umash Amrou Razal, ce que les Chachamim ont dit. Des mitzvot, betelot, leatid lavo. Les Chachamim, a priori, ont dit que les mitzvot, a priori, c'est écrit dans la Gemara, que les mitzvot seront annulés quand Mashiach viendra. Donc la question qui se pose, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Gemara qui a dit ça. La Gemara qui dit que quand Mashiach va venir, les mitzvot seront annulés. Est-ce qu'il faut le comprendre de sens littéral? Que quand Mashiach va venir, il y aura plus de mitzvot à faire. Il te dit, faux, c'est une erreur. Pourquoi? Aïnou bitriat ametim. Aval limot amashiach kodem triat ametim en betelim. Il explique comme ça. En vérité, quand Mashiach va venir, on aura deux phases. Première phase, c'est la résurrection des morts. Deuxième phase, d'accord? Excusez-moi. Première phase, c'est yemot amashiach. D'accord? C'est Mashiach qui arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire Mashiach arrive, les temps messianiques, le Beth Amikdash est là, d'accord? Le Mashiach est là. Il n'y a plus de guerre dans le monde recherche qu'à faire le bien, mais les morts n'ont pas encore revécu.
Ça dure combien de temps, ça? Le monde, ça veut dire le monde.
C'est ici, les là, 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 maintenant, ça peut se passer ce soir, maintenant.
Le monde, pour toi, c'est les juifs et les goy?
Bien sûr. C'est que le monde n'aura que la recherche du bien.
On va vivre un bout de temps. Hein.
D'accord? C'est possible. Alors, ça, c'est une première phase. Une première phase qui va durer un nombre indéfini de temps. Il y en a qui disent 40 ans, il y en a qui disent 50 ans, il y en a qui disent 100 ans, il y en a qui disent 1000 ans. D'accord? C'est Marc Loquette. Après cette première phase, il y aura une deuxième phase qui s'appelle Triat Ametim, la résurrection des morts. Maintenant, Tosfot, dans la Gemara, il explique que, a priori, il y en a qui pensent que quand on aura la résurrection des morts, c'est obligé de dire que les mitzvot seront annulés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on enterre les morts, on a le droit de les enterrer avec du chatnez. C'est quoi le chatnez? C'est un vêtement mélangé avec le lin et la laine. Nous, on n'a pas la laine et le lin. Nous, on n'a pas le droit de porter un vêtement comme ça. Chaque instant.
On a le droit, mais comme il n'y en a jamais eu, ils n'ont peut-être pas, on ne peut pas le faire avec.
Alors, attends. Nous, aujourd'hui, par exemple, si j'ai un vêtement, une veste dans laquelle j'ai de la laine qui est cousue avec du lin, d'accord? Chaque instant que je le porte, c'est un interdit de la Torah. Mais, qu'est-ce que dit Shulchan Aruch? Il dit qu'on a le droit d'enterrer un mort avec ça.
Ah bon?
Alors, toutefois, il pose une question très simple. Il dit, mais ce mort, on a la Emouna qui va se lever un jour. Peut-être Mashiach va venir et peut-être son vêtement, il sera toujours là. D'accord? Écoutez bien. Bah oui. Là, il dit, imagine que ce mort, il va se lever avec son vêtement chatnez. Comment il fera? Si tu me dis que les mitzvot vont continuer quand Mashiach viendra, quand il va se lever, il aura un vêtement pas caché sur lui. On a un problème. Comment on fait? Alors, l'avis de Tosfot est que la forme des mitzvot telle qu'on l'a aujourd'hui, elle sera annulée au moment de la résurrection des morts. On va garder que le fond.
Oui.
Il y a d'autres preuves. D'accord? C'est la vie de Tosfot.
Est-ce qu'on a le droit de porter un
truc
en lin et par-dessus, un pull en laine?
Oui, c'est cousu. Hein?
Faut pas que ça cousu, hein, ça. Ah,
d'accord.
Comment?
Ah, oui, je sais pas.
Ah, non, non, c'est gros. Et si c'est 40 ans?
40 ans, c'est 5-10 ans que tu
trouves. Eh ben, c'est 5-10 ans. Si c'est un de ses dits qui se lève tout de suite. C'est des qui ne se lève pas 40 ans plus tard.
Il mourra encore.
C'est le même vêtement.
Bonne question. On va y arriver. Même coudre. Même coudre, j'ai pas le droit. Je te donne un exemple. Imagine-toi, j'ai un bouton qui tombe ici. Cette veste est en laine. J'ai un bouton qui tombe. Je prends un fil de lin. Enfin, je recoule le bouton. Chaque instant que je porte ce vêtement, je fais un interdit de la Torah. Et il y a souvent ce problème dans les Hugo Boss.
Hugo Boss,
d'accord? Hugo Boss, à tous les coups, ici dans le cou, là, à tous les coups,
Non, ça va, on est préservé.
Hein?
Non, mais ils en mettent plus, au priori.
Quoi?
Il
y a un costard, moi, l'aîné là.
Un moment m'a dit qu'aujourd'hui, un claquet qui vérifie le chatenaise, hein, qui m'a dit qu'il en trouve très souvent dans les costumes Hugo Boss.
C'est le boss qui faisait les uniformes de l'armée.
Ouais, c'est bien sûr.
C'est vrai que maintenant on est grâce au polyester.
Ouais. Ouais, c'est
oui,
ça.
Ok.
Il y a plein d'ester.
Donc, encore une fois. A priori, donc rappelez-vous, on a le fond des mitzvot et la forme des mitzvot. Nous, aujourd'hui, on se focalise principalement sur quoi? On se focalise aujourd'hui sur la forme. C'est comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est des gens qui regardent plutôt la forme. Ça veut dire que tu peux avoir deux bouteilles. La même eau à l'intérieur. Une, elle est rouge, l'autre, elle est blanche. Maintenant, il préfère à celle-là, l'autre, il préfère à celle-là. Mais c'est les mêmes fonds, que ça te change. Ben, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on accorde une grande importance à la forme. Et même nos mitzvot sont comme ça. C'est des mitzvot avec des symboles très forts en forme. Ça, c'est aujourd'hui. Quand Machiav viendra, première phase, d'accord? Ça veut dire l'étape messianique avec Machiav, etc., le Beth Amikdash et le monde qui recherche que le bien. Vous inquiétez pas, on continuera à faire tout ce qu'on fait. Mais on n'aura que la recherche du bien. Ça, a priori, les mitzvot resteront telles qu'aujourd'hui. Mais, il y aura une deuxième phase. Cette deuxième phase, résurrection des morts, là, il y a une machloquette. Il y en a qui disent que cette deuxième phase-là, on arrêtera la forme des mitzvot telle qu'on l'a aujourd'hui. On passera en mode fond. Il y en a qui disent non. Ils disent ça s'arrêtera pas. On continuera quand même. Mais, tout le monde est d'accord. Même ceux qui disent qu'on s'arrêtera pas de faire les mitzvot, la forme des mitzvot, tout le monde est d'accord qu'on se focalisera principalement sur le fond des mitzvot. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on te dit, fais la mitzvah, peu importe si tu comprends, tu comprends pas. Mets les tefillin, peu importe si tu sais ce qui est écrit dedans, si tu comprends, etc.
Même
ce qui compte.
On est récompensé si on l'a fait, même si elle
exactement,
a raté.
Exactement. Si aujourd'hui, fait, c'est pas du tout notre mode de réflexion. Aujourd'hui, j'ai déjà donné plusieurs fois cet exemple. Non. Justement. Non, pas du tout. C'est pile le contraire. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Excuse-moi de te reprendre. Je donne plusieurs fois cet exemple. Pas du tout. Je donnais un exemple que j'ai donné plusieurs fois pour ceux qui viennent au cours de Tania. C'est un exemple que j'aime bien. Imagine-toi que tu as une personne qui est en prison. D'accord? Il est en prison au fin fond de l'Afrique, je sais pas où. Arrive le soir de Pessah. D'accord? Messirut Nefesh. Il mange pas de pain. Il y a que ça à manger. Il faut de la matzah. Il a pas de matzah. D'accord? Il prend un carreau de sucre. Et avec ce carreau de sucre, il met ses larmes dessus. Et il prie à Kadosh Baruch Hu. Il fait toute la gada par cœur, parce qu'il la connaît par cœur. Et il prie à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, considère ce carreau de sucre comme une matzah. Regarde dans quelle galère je suis. D'accord? Il fait toute la gada dessus. Et pour les quatre kossotes, il a trouvé qu'un peu d'eau. Alors il prend de l'eau. Il prend quatre coupes d'eau. Ça, c'est un juif qui est au fin fond d'Afrique. Il y a un deuxième juif maintenant, qui est à, on va le mettre celui-là, Ibiza. D'accord? Ibiza. Il est en train de faire les bêtises le soir de Pessah, comme ça, au McDo, là-bas, il fait tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui se passe?
Non, il est pas bon, le McDo.
Ah, il est pas bon? D'accord, bon.
Il a pas de matzah.
David, alors?
Oinek? Ibiza.
Hein?
La sieste, c'est le matin.
Tu vois bien?
Je vois que tu connais un peu.
Hein? On attend que les Chaïm. Ah ouais, il y avait les Chaïm. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je continue l'exemple. Il arrive, il y a un goy qui vient le voir, qui lui met un pistolet sur la tête et qui lui dit, mange ce morceau de matzah ou je te tue. Et l'autre, il a pas choisi,
Le morceau de?
Matzah. Soir de céder. Sans bracha, sans rien. Et il le prend et il le mange. Et ben, il a fait la mitzvah, l'autre n'a pas fait la mitzvah. Excuse-moi. Même si ça nous choque.
C'est bien ce que je viens de te dire.
Ça veut dire qu'aujourd'hui.
Il a mangé la matzah, mais il a rien fait autour, mais il a fait.
Ça veut dire que c'est pas l'intention qui compte.
C'est pas l'intention.
Mais l'intention, c'est l'action.
Ce qui compte, c'est de l'avoir fait, c'est tout.
Il a mis tout son cœur.
Quand Machiav viendra, ça va changer. Ça va changer. Quand Machiav viendra, on mettra plus un accent sur la forme que sur le fond. Sur le fond que sur la forme.
Donc les deux types, quand ils montent au tribunal.
Ça jouera sur la balance.
Le jour de le Pessah de cette année-là, on lui dit toi tu l'as fait, toi tu l'as pas fait.
Oui, bon, l'autre, maintenant, bien sûr, on lui dira circonstance atténuante, t'avais pas le choix. Mais il a pas fait la mitzvah.
Mais il a du mérite quand même.
Il a du mérite, oui, si tu veux. Ça veut dire, on va dire, bon, on comprend qu'il pouvait pas, il avait pas le choix. Mais il a pas fait la mitzvah. Dans le compteur, il manque une mitzvah. L'autre, il a fait la mitzvah. T'imagines? On va aller à Ibiza, hein.
On va le mettre pour le bras. Tu peux trouver une braqueuse, mais un braqueur...
T'as besoin d'aller vite pour ça.
Alors, c'est bon, David? Donc, on continue.
C'est comme les juges aujourd'hui. Ils te jugent sur...
Velachen, c'est pour ça. Aval, lima, tamashir, kodra, tamatim, embetilim. Velachen, c'est pour ça. Iegam, ikar, esek, atorah. C'est pour ça qu'il dit que quand Mashiach va venir, l'essentiel de l'étude de la Torah, gamken bipnimiyut amitzvot vetaamiyam anistarim. L'essentiel de l'étude de la Torah quand Mashiach viendra sera autour de quoi? Ne sera plus autour de la forme, mais il sera autour du fond. Ça veut dire essayer de comprendre le sens profond d'une mitzvah. Aval aniglot iyu gluim viyiduim lechol ish Israël. Mais il dit, mais les halachot classiques, ça veut dire nous aujourd'hui on se casse les pieds pour savoir comment on fait Shabbat, comment on met les tefillines, est-ce qu'on fait comme ci, est-ce qu'on fait comme ça, c'est le Shulchan Aruch, on passe un temps considérable dessus. Et tu dis ça, ça sera tellement évident quand Mashiach viendra, que ça sera de série. Ça veut dire, tu viendras de série, tu sauras ce qu'il faut faire. Ça veut dire que, encore une fois, il y en a qui disent que la forme on arrêtera, même ceux qui disent que la forme on n'arrêtera pas, on mettra très peu de temps dessus parce que ça sera de série, on saura directement quoi faire. Ça sera un réflexe. Il y a des choses chez nous, c'est un réflexe aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, c'est un réflexe chez moi que si j'ai soif et que j'ai un verre d'eau devant moi, qu'est-ce que je fais? Je le bois. C'est un réflexe, oui ou non? C'est un réflexe que si j'ai faim et que j'ai de la nourriture devant moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens de réfléchir? Ah, il faut manger. Alors comment je mange? Est-ce que je mange ou est-ce que je mange pas? Non, je réfléchis pas, c'est un réflexe. Eh ben, imaginez que quand ma chère arrivera, les mitzvot et la Torah seront un réflexe pour nous. T'as même besoin de réflexion. Donc, où on va passer notre temps? Pas dans savoir comment il faut les faire, parce que ça sera instinctif, ça sera un réflexe. On va passer notre temps à comprendre qu'est-ce qu'on fait. À comprendre le sens profond. Et ça, c'est pour ça que c'est magnifique quand ma chère va venir.
Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si je comprends, à partir d'aujourd'hui, je fais que la forme.
Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se focalise principalement sur la forme.
Ouais, mais
et
si la forme sans comprendre, ça marche.
Bien sûr, ça marche.
Ben voilà, donc faire que la forme, c'est pas grave.
Tu peux si tu veux. Mais bon courage.
Bon courage.
Bon courage, parce qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, on avait fait un cours sur ça une fois, plus on avance dans le temps, et plus c'est compliqué de faire les choses sans comprendre.
Ouais.
Il fut un temps, ne serait-ce que tu prends un siècle en arrière, les gens faisaient les choses telles que le rabbin il disait.
Ouais, sans connaître.
Sans comprendre. C'est pas grave, c'est le.
Il y a encore pas longtemps.
Non, aujourd'hui.
98% ils font parce que. Ah, il faut faire. Hein.
Non, ben, justement, aujourd'hui 90% ils font pas. Parce qu'ils comprennent pas.
90% de ceux qui font.
Non. Aujourd'hui, ceux qui font, il y a déjà une compréhension, rien à voir avec ce qu'il y avait avant.
Tu sais pourquoi à peu près?
Ouais, ça n'a rien à voir, il a raison.
Avant, la majeure partie du peuple était ignorant et ça les dérangeait pas pour un sou.
Attendez, on est 12, mais dans la
vous savez, regardez, 400. Prenez il y a un siècle, d'accord, la majorité du peuple était ignorant. C'est un fait ce que je vous dis. La majorité du peuple était occupée toute la journée à travailler très très dur, et ils étaient ignorants.
Bien sûr.
Que ce soit dans le monde séfarade, dans le monde ashkenaz, la majorité des gens étaient ignorants. Il y avait une poignée de gens, peut-être, je sais pas moi, 5% qui savaient étudier, maximum. Les autres étaient analphabètes, juste ils savaient lire.
Parce qu'il n'y avait pas de livre.
Non, ils savaient lire.
Est-ce que pour ça on faisait pas les mitzvot? Est-ce que ça nous dérangeait? Non, on faisait parce que c'est comme
non,
ça. Plus on avance, on avait déjà fait un cours, je reviendrai pas dessus. Plus on avance dans le temps et plus on doit comprendre. Mais, aujourd'hui, en vérité, c'est seulement un avant-goût à ce qu'il y aura quand Mashiach arrivera. Quand Mashiach arrivera, imagine-toi qu'on sera dans un monde dans lequel on passera tout notre temps à comprendre ce qu'on fait. Pas à savoir comment on le fait. Pas à savoir la forme comment on le fait, à comprendre le fond de ce qu'on fait.
Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils avaient compris, ils étudient la compréhension des mitzvot.
Très peu par rapport à Mashiach. À l'époque de Moshe Rabbeinu, on était en train de créer la Torah. On avait quelques bases qui est dans le Chumash. Après de ça, il fallait créer la Torah. Donc il y avait des gens qui se sont assis, tout le peuple d'Israël se sont assis pour essayer de trouver techniquement comment accomplir la Torah. Donc il fallait trouver des idées. Parce que des fois, on a par exemple, Dieu nous a donné un cahier des charges, mais il nous dit pas toujours comment le faire. Par exemple, il te dit le cahier des charges d'un loulav. Voilà, il doit tac, 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 tac. Il donne un cahier. Après, il faut essayer de réfléchir. Ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Et s'il manque ce détail et ce détail? C'est-à-dire qu'il nous a donné un cahier des charges. Et par rapport à ça, nous, on doit se casser la tête pour essayer de voir juridiquement, techniquement, est-ce que c'est cachère ou pas. C'est un petit peu comme des avocats qui ont un texte de loi et qui essayent de voir, d'interpréter ce texte de loi pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. D'accord? Quelles sont les limites? Comment le contourner? C'est un texte de loi. Mais ça veut dire on reste dans la forme. C'est pour ça qu'on parle de forme juridique. On reste dans la forme, on n'est pas dans le fond. Le rôle d'un avocat, c'est pas de voir dans le fond est-ce que le bonhomme a raison ou pas. On est d'accord? Vous allez voir un avocat, vous croyez qu'il va vous poser la question, monsieur, est-ce que dans le fond vous avez raison? Il sait très bien que dans le fond t'as pas raison.
Quand c'est pas la tête, on va gagner.
Exactement. Ça veut dire qu'il en a rien à faire, il en a rien à faire du fond. Le fond, il sait que t'as tort. Maintenant, nous, on voit la forme. Comment on peut s'en sortir la forme pour essayer de trouver un vice de procédure? On est d'accord?
Mais ceux qui ont étudié le Zohar, parce que tu as dit la fin dernière que le Zohar, c'est comme ça, et pas autrement, il n'y a pas de questionnement par rapport à la Gemara.
Ceux qui ont étudié le Zohar, c'est un avant-goût.
Ils ont creusé les.
C'est un avant-goût de ce qu'il y aura quand Mashiach arrivera. Parce que le Zohar, c'est que du fond, c'est pas de la forme.
C'est ça.
Tu vois, la Gemara, c'est principalement de la forme et pas du fond. Le Zohar, c'est principalement du fond. Et très peu de forme. C'est pareil, c'est deux mondes complètement différents.
Mais est-ce qu'ils avaient déjà étudié le Zohar à l'époque de Moshe Rabbeinu ou pas? Certains.
Non. Très peu. Parce qu'il fallait déjà créer la forme. Il fallait la créer, cette forme. Après, on a fait le fond. Donc, Aval. Alors, on a tourné la page, je crois, là, c'est ça? J'ai pas la même.
On a pas.
Troisième ligne de page 290. Aval. Mais. Aniglot, iugluim, viiduim, lechol, ishisrael, biidia, batrila. Il te dit, les lois, ça veut dire, la forme des mitzvot, quand Machar viendra, seront dévoilées et évidentes pour toute personne, biidia, batrila, en connaissance. Bitrila, ça veut dire dès le départ, ça veut dire en réflexe. Blishicha, sans que tu puisses l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on étudie, mais une grande partie de notre temps, on passe quoi? On passe à réviser des choses qu'on a oubliées. Mais si c'est un réflexe, tu ne l'oublies pas.
Oui, c'est inné, quoi.
Est-ce que j'ai déjà oublié que quand j'ai soif, je dois prendre un verre d'eau? T'as déjà vu une personne qui a oublié ça? Non. Il a oublié que quand on est soif, il faut boire un verre d'eau?
Quand on est vieux, oui.
D'accord? C'est qu'il y a un problème s'il a oublié. Tu peux pas oublier. C'est inné que quand j'ai soif, il y a de l'eau. L'eau, c'est pour ma soif, c'est tout. Je peux jamais l'oublier. Eh ben, imaginez que quand Machar arrive, c'est inné. Quand Machar arrive, toutes les méthodes sont innées. Donc, il faut chercher une autre occupation. L'occupation sera quoi? Sera le fond. V'en tsarich la sok v'em, eila le erev rav, shelo isku le mita meilana de chaye, shehu pnimi de Torah v'amitzvah. Alors là, on touche à un autre sujet. Un sujet que je préfère vous dire directement, je ne comprends pas à 100%. J'ai essayé beaucoup là, depuis, j'ai passé 2 heures avant le cours ce soir. Juste sur ça.
D'accord?
J'étais chez moi à la maison, j'essayais de chercher beaucoup de livres. Je vais vous expliquer, c'est pas que j'ai pas compris, mais j'ai pas compris à 100%. Alors là, on parle de Erev Rav. Est-ce que vous savez ce que c'est le Erev Rav?
La tourbe nombreuse.
Non.
La masse des gens.
Quand on est sorti d'Égypte, nous étions à peu près 3 millions. Mais on n'est pas 603 550, comme c'est dit dans la parasha la semaine dernière, d'hommes de 20 à 60 ans. Et avec le reste, entre les femmes et les enfants, on arrive à peu près à 3 millions. C'est le compte qu'on a. D'accord? Les vieillards, etc. On arrive à peu près, les commentateurs disent, on arrive à peu près à 3 millions. Mais à part ces 3 millions, on a eu une grande masse de personnes, avec un nombre indéfini. Il y en a qui disent qu'ils étaient plus nombreux encore que nous. D'accord? Il y en a qui disent qu'ils étaient moins. Enfin, ça, c'est une marloquette. Parce que la Torah ne le dit pas. Donc après, c'est des allusions dans la Torah. C'est très compliqué à savoir. En tout cas, il y a eu une masse de personnes qui est venue avec nous, des Égyptiens. Des Égyptiens, ils ont compris où le vent tournait. Et ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire en Égypte. Parce que l'Égypte est au vent.
D'accord?
Des goïms. Purs. Et qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu la permission de nous accompagner. Oui. D'être avec nous. Donc Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il a réfléchi, d'accord? Ou peut-être qu'il n'avait pas eu trop de temps de réfléchir, en tout cas, il l'a fait. Il a dit, ok, on les prend avec nous et on verra ce qu'on fait avec eux en route. On les a pris avec nous. La majeure partie des problèmes qu'on a eu dans le désert, c'est à cause d'eux.
Le vaudor même.
Le vaudor, ça commençait par eux. D'accord? De quoi? La Gemara dit clairement. Alors attendez, 2 secondes. Laissez-moi arriver. C'est pour ça que je préfère vous dire tout de suite que j'ai prévenu au début que je comprends pas à 100%. Dans la Gemara,
si tu dis que c'est en partie à cause d'eux, le veau d'or c'est en partie à cause d'eux, et pourquoi on nous en tient rigueur?
Ah oui. J'y arrive. Laissez-moi arriver. Ensuite, il y a beaucoup de cas dans la Gemara dans lesquels des fois il y avait des gens qui faisaient des choses qui ne correspondaient pas au Bnei Israël. Vous me suivez? Il y avait des gens qui faisaient des choses qui ne correspondaient pas à la nature des Bnei Israël. Par exemple, un juif, on sait qu'il doit avoir 3 choses. Il doit être Rahman, miséricordieux, Baishan, il doit être plutôt timide, d'accord? Et Gomel Chassadim, il doit avoir envie d'aider. C'est les trois critères du Bnei Israël. Des fois, dans la Gemara, on raconte qu'il y avait des gens qui, il y avait, alors, le Marsha, il enlève le critère timide. Il dit ça, il faut l'enlever peut-être, parce que bon, des juifs timides, on n'en connaît pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, les 2 autres critères, vouloir aider et être miséricordieux, ça, c'est une définition d'un Israël. Et écoutez ce que la Gemara dit. La Gemara dit, des fois, on voyait des gens qui n'étaient pas comme ça. Qui avaient une cruauté, qu'on n'arrivait pas à comprendre d'où ça venait. Et qu'est-ce qu'ils disaient les Chachamim? Ils disaient, celui-là, il doit venir de Erev Rav. Et c'était pas une insulte, c'était vraiment, c'est-à-dire, on le pensait. Donc, c'est quoi Erev Rav? C'est finalement des familles qui sont mélangées avec nous. On a beaucoup souffert avec eux dans l'histoire. Mais Dieu, le Midrash dit que Dieu a donné une promesse à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a compris que c'était déjà trop tard, il faisait partie du peuple, il avait déjà eu des mariages, etc. Il commençait trop tard, quoi. Akadosh Baruch Hu a donné une promesse à Moshe Rabbeinu. Il dit, je te promets qu'au fil des générations, ils finiront par quitter le peuple. Vous me suivez? Ils finiront par quitter le peuple. D'accord?
Là, il n'y en a plus l'heure.
Midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ça sera soit, par exemple, des gens qui n'auront pas d'enfants. D'accord. Soit ce sera par exemple des gens qui, Dieu préserve, vont se marier avec des goyotes. Donc ils auront pas des enfants, leurs enfants seront pas juifs. D'accord.
Oui, mais ça, ah oui, d'accord. Mais ça, du même branche, tu peux pas l'avoir. Ça, c'est pas logique.
Alors, j'ai pas fini.
Parce que ça, du même branche, tu peux pas avoir un juif et non juif.
Mais d'un autre côté.
Celui qui se marie avec le juif, il reste juif ou l'autre.
Deux secondes, laisse-moi finir. D'un autre côté. D'un autre côté. Ça, ce que je vous dis, on le tient du Ger Pototsky, d'un grand converti qui s'appelait Pototsky. Il a dit comme ça. Et il a dit, d'un autre côté, on sait que quand on était en Égypte, il y avait beaucoup de gens qui, sincèrement, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont eu une émouna en Dieu, et ils se sont dit, Dieu est le plus grand Dieu, ils ont voulu se convertir au judaïsme. Mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont pas réussi. Ça veut dire qu'on a un problème ici. D'un côté, on a des gens qui se sont associés à nous, sans vraiment croire à ce qu'on fait. Ils sont associés à nous parce que c'était populaire. D'un autre côté, on a une masse de personnes dans le monde, on a des millions de personnes dans le monde, qui se sont associées idéologiquement à notre idée, mais qui n'ont pas eu le cran de venir et de nous rejoindre. Alors il dit comme ça, Kadosh Baruch Hu a promis à Moshe Rabbeinu, il a dit, je te promets qu'au fil des générations, ceux qui voulaient nous rejoindre finiront par nous rejoindre. Et ceux qui nous ont rejoints, alors qu'ils ne voulaient pas nous rejoindre, ils finiront par nous quitter.
Concrètement, tu penses à des gens qui nous ont...
Alors, maintenant, concrètement, voilà. Concrètement, ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup cherché ce soir. La question qu'on se pose, c'est qui est le Rav aujourd'hui? Il n'y a pas de définition, on ne peut pas donner la définition. C'est quelque chose que même les grands tzadikim ne savent pas.
Il est entremêlé,
d'accord, on ne peut pas le savoir. Impossible de savoir. Non, mais ça veut dire, par exemple, quand tu as quelqu'un, par exemple, qui fréquente une goyette, il dit, ah oui, certainement, il rêvera, vas-y, laisse-le, comme ça, il part.
Non, c'est pas ni toi, ni lui, personne.
Exact, personne.
Il est entremêlé, toi.
Alors, ça, c'est le Rav. D'accord? Ça, c'est le Rav. Maintenant, ces gens du Erev Rav, il y a des gens qui vont faire des efforts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des efforts, et que c'est vrai qu'au début, leur intention n'était pas cachère. Ils sont venus parce que c'était populaire, mais en vérité, ils n'ont jamais adhéré à l'idée du Ham Israël. C'est pour ça que dès qu'il y avait de la pagaille, ils étaient là. Dès qu'il y avait des problèmes, ils étaient là. Mais concrètement, il y a des gens que peut-être leurs parents dans le désert, leurs parents Erev Rav, n'étaient pas dans le coup, mais avec le temps, peut-être qu'aujourd'hui, en 2013, d'accord, on a peut-être des gens qui descendent du Erev Rav et qui finalement ont pris le pli. D'accord? Donc ces gens-là, quand ma chère va venir, on aura un problème avec eux. Pourquoi on aura un problème avec eux? Parce que c'est pas des Shamat Israël. Ils sont pas juifs à 100%.
Mais comment on n'a pas dit qu'elle avait récupéré les
Sotes. Écoutez bien, écoutez bien.
On en fait partie,
Mandy. Bien sûr qu'on en fait partie. Ah, j'ai aucune idée si on en fait partie ou pas. On dit qu'il y a une présomption. Mais c'est possible. Ah, tu dis que ces gens-là, si vous comprenez pas à 100%, c'est pas grave. Moi, honnêtement, j'ai pas compris, hein. Ce que je vous dis, je vous répète ce que j'ai lu, mais j'ai pas compris. C'est pas que j'ai pas compris. Je peux vous répéter les mots, mais je sais pas, c'est pas très clair.
Hein?
J'ai du mal à comprendre comment ça va se passer quand Machia va revenir.
L'ADN.
Très compliqué. Parce qu'avec les mélanges des hommes et des femmes qui se marient, etc., statistiquement, c'est pratiquement impossible. On n'est pas mêlé à ça, hein.
Il y a que Machia qui se rend.
Très compliqué.
Ah oui, il y aura que...
Alors, en tout cas, voilà, regardez. Ceux qui sont du RF Rav, ce qui est clair.
Les descendants du RF Rav, tu vois.
Moi, ce que j'ai essayé de chercher tout à l'heure, avant de venir au cours, quand j'essaie de chercher à savoir, est-ce que c'est obligé que ça se passe comme ça? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres options? J'ai pas trouvé. Peut-être que je trouverai plus tard. D'accord? J'ai même envoyé en urgence. Je connais un rave qui est très fort dans ce truc-là, en Belgique. J'ai essayé de le joindre. Bon, je l'ai envoyé des mails, les SMS et tout. Il est occupé dans son chiot. Bon, peut-être qu'il m'a répondu là maintenant, mais je vérifierai après. Non, je l'ai posé les points que je voulais savoir. Parce que c'est très balèze dans ça. Parce que c'est quelque chose qui est pas très clair dans ma tête. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Quand Machiach arrivera, on a dit qu'il y aura encore une partie qui s'appelle le Erev Rav. C'est qui ce Erev Rav? Ce Erev Rav, c'est des gens, on a dit, qui finalement auront pris le pli. Maintenant, ces gens-là, comme c'est pas des Neshamot Israël, comme à la base c'est pas des Neshamot Israël, alors ces gens-là, ils pourront pas toucher, ils devront rester dans un premier temps à la forme de la mitzvah. C'est très curieux ce que je suis en train de vous dire ici. Vous me suivez? Ouais. Nous, on a dit que quand Machiach arrivera...
Bon, c'est une sorte de conversion. Quoi.
Voilà, exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, maintenant, on se focalise sur la forme. Et quand Machiach arrivera, on se focalisera principalement sur le fond. Quand Machiach arrivera, ces gens-là qui font partie du Erev Rav, mais qui auront pris le pli, Dieu leur passera une sorte de conversion. Ça veut dire, il leur dira, bah, très bien, maintenant, vous allez vous occuper du fond. Ça veut dire qu'on aura toute une communauté, on aura des synagogues entières qui étudieront la halakhot à fond. Alors que la majorité du peuple sera déjà en train d'étudier le fond des mitzvot. Très curieux.
Donc finalement, on aura un monde à trois vitesses. Un monde qui s'occupe du fond.
Voilà.
Une infime partie qui s'occupe encore de la forme.
De la forme.
Et les goyim pour nous servir le thé et le café.
Exactement. Il est content, hein, il est content.
Mais attends, je sais pas. Ça se trouve, on en fait partie des goïmes.
Je sais pas où je suis.
D'accord ?
Il y a un problème, là.
Oui. Ils sont mariés, ils sont associés, c'est pas très clair, ça je te dis. Ils sont associés. On sait pas clair, c'est pas clair. Honnêtement, je te dis, le concept du RF Rav, c'est pas clair qu'est-ce qu'ils sont devenus. Comment d'abord ils sont mariés avec eux? Vous savez pas qu'on se marie pas avec n'importe qui? C'est très bizarre, je sais pas.
Vous avez droit à rentrer dans la communauté, c'est marqué dans la Torah.
Et pourquoi ils sont pas doutés? Tu sens que quelqu'un il a pas adhéré. Tu te fais avoir une fois, deux fois, trois fois, après tu peux pas te faire avoir par 3 millions de personnes. C'est compliqué.
Ils n'ont pas refusé l'adhésion.
Non, c'est pas l'adhésion. Ils ont adhéré officiellement. Mais en vérité, intérieurement, ils n'ont jamais adhéré.
Mais quand ça va se dévoiler, ça, comment ça va être perçu par
les gens? Eleni Toutsot.
C'est compliqué, hein.
Je sais pas.
Eleni Toutsot qui sont perdus chez les Goïnous.
C'est les rêves, c'est ça?
Oui. Ben, Rabbi Akiva, un machin, un truc. Shmaya et Elion.
C'est autre chose, ça. C'est des goïms. Ça, en vérité, tous ces convertis qu'on a eus, comme Rabbi Meir, etc., tous ces grands Rabbi Akiva, qui viennent des familles de convertis, ils viennent de familles, en vérité, leurs parents, quand il y a eu le don de la Torah, leurs parents ont voulu rejoindre l'âme Israël, mais ils n'ont pas eu le cran de le faire. Donc Dieu a promis, il a dit, vous finirez par rejoindre l'âme Israël. Et ils nous ont rejoints. Et tous les convertis qu'il y a aujourd'hui, ils sont issus de personnes.
Moi, mon beau-père, il disait un truc comme ça, il disait, il y a beaucoup de juifs qui ne savent pas vivre, entre guillemets. Il y a beaucoup de
juifs. C'est compliqué, ça, bon.
Et il y a les distributions des Neshamot un peu éparpillées. Ce qui fait qu'il y a des convertis qui arrivent avec des corottes incroyables parce qu'ils ont la Neshamot. Et par contre, il y a des juifs qui se comportent, qui disent, mais il est bon, c'est pas possible.
David, dis-nous le Raïm.
Quand on est juif.
Ouais.
Et il faut qu'on les trouve.
On n'a pas de bouteille là-bas? Allez, les Haïb.
Non, t'as des trucs qui disqualifient.
C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est une histoire de Neshamot et franchement, on n'a pas les outils pour en parler.
Il revient dans ton sens quand il dit ça.
Je parle de quelqu'un qui n'aura pas.
Moi, je répète ce que j'ai lu, mais je ne le comprends pas à 100% parce que.
Mendy, manière juive pour nous, c'est la descendance génétique. Il y a pas de. On parle pas de Neshama juif.
On n'est pas en train de dire qu'il ne sera pas juif. On dit qu'ils auront un programme spécial.
Encore? Il y a des juifs qui sont nés de mères juives mais qui ne sont pas juifs, je comprends.
Ils sont juifs. Jamais. Ils auront un programme spécial, un rattrapage.
Parce que la mère elle-même apparemment descend de.
Parce que dans les gènes, il leur manque quelque chose. Ils doivent rattraper.
Il manque pas une étoile.
Bien sûr, c'est quoi alors?
Faites passer les mecs qui veulent.
Il n'y a pas de gènes juifs.
Si. Bien sûr qu'ils sont juifs.
Justement, c'est ça qu'ils ont fait, qu'ils ont essayé de nous.
Alors on y va. Le Chaim.
Et quel conseil de ceux qui disent les goïms seront Israël, Israël seront.
Alors voilà, justement, c'est vrai, brave, c'est vrai, brave. Maintenant, écoutez bien. Avec ça, vous vous rappelez, je vous avais dit, je crois que c'était à 3 cours, que c'est écrit dans Isaïe. Vous verrez dans le dernier chapitre de Isaïe, dans l'avant-dernier chapitre de Isaïe, chapitre 65, c'est écrit que le jeune homme mourra à 100 ans. Cette magie reviendra.
Ouais.
Et donc, alors, on a posé la question, on a dit, mais pourquoi il va mourir? Alors, en vérité, ce qu'il va expliquer ici, l'Admor HaZaken, c'est que ne pourront mourir que les gens qui font partie du Erev Rav. Que comme les gens qui font partie du Erev Rav, ils sont encore en mode forme, d'accord? Donc, comme ils sont en mode forme, s'ils suivent, tant mieux, ils suivent pas, ben, ils vont partir. Ouais, mais la majorité du Ham Israël qui sont encore en mode fond, eux, ils pourront jamais mourir. Pourquoi? Parce qu'ils pourront instinctivement pas faire d'Averot. Donc, ils feront pas d'Averot, donc ils mourront pas. Vous me suivez? Ouais. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une infime partie du peuple qui pourra mourir. Ceux qui sont encore en rattrapage en mode forme.
Mais Erev Rav aura été augmenté, manifestement.
Mais pour voir mourir, ils vont.
Je ne sais pas comment ils seront.
Ils vont pas mourir.
Non, augmenté dans le sens.
Ah oui, ils sont. Ça veut dire qu'après, au bout d'un certain temps, d'accord, quand on arrivera à la résurrection des morts, ceux qui auront suivi le programme, tant mieux. Ceux qui n'ont pas suivi, ben, ils seront partis entre temps. Ils seront morts. Ils seront morts comme tout le monde.
Ils vont venir un peu.
Non.
On est capé à 120.
Ah, c'est fini. On leur a donné une chance. Ils n'étaient pas juifs à la base.
Quand il y a Machia qui arrive, on n'est plus capé à 120.
Hein? Certes. Oui, non, j'ai prévenu. Non, honnêtement, voilà, c'est comme j'ai dit. Ce qui m'a dérangé quand j'ai préparé ça, c'est que ça m'a paru abstrait. Et c'est pas ça, c'est que on a du mal à comprendre comment ça va se passer. passer. On a du mal à le voir concrètement. C'est-à-dire, j'ai du mal à m'imaginer en Israël, tu rentres.
C'est comme le porc. C'est la même chose. Ça veut dire, au lieu qu'il y ait une tâche, au lieu que...
Bon, le porc, ça me dérange pas. Tu me dis, écoute, il y a Moïse qui vient me voir, qui me dit, écoute, le porc, tu peux maintenant. Ok, je peux.
Eh ben, c'est la même chose.
La Daf Olardon, on est prêt?
Eh ben, c'est la même chose. Pour quoi, c'est très bon, Christian. C'est pas grave.
Crème fraîche, avec la crème fraîche.
Non, c'est la crème, c'est la crème.
Hein? Qu'est-ce qu'il y a?
Hein?
On te met la dame prote dedans aussi, y a pas de problème.
Non, non, je veux pas,
la
chaleur,
je vous préviens.
Hein. Alors, David,
c'est du rhum, de la crème fraîche et de la noix de coco.
Moi, j'ai un cheeseburger.
On va la jeûner là pendant.
Ok. Donc, Utsrichim la sok batora b'mishnah la tishkoa chasitra harad avuk b'em. Donc, ils devront faire un effort eux de continuer à étudier dans, en mode forme, on a dit, parce que pour enlever la force du mal qui est en eux, chez l'otishlot b'em la chatiem qui dit va choter ben meashana yekulal. Comme c'est écrit que le fauteur à 100 ans sera maudit et on a dit il mourra. Vous êtes avec moi, messieurs? Allez, il faut qu'on reste concentré. Chez Yuchot Imei Revrav, d'accord, qu'il y aura des fauteurs du Revrav qui vont fauter. Vegam le maase, yutzrichim le frate à la chot, asur vetuma, yoterm Israël, chez lo yera la em, pasul vetuma, ve asur kilo yeune vechoule. Il se dit comme ça. Alors, j'explique ce qu'il dit ici. Ah bon, on va se concentrer encore une fois. C'est écrit comme ça. Il y a un verset. Il y a un verset qui dit, lo yeune la tzadik kol aven. Que un tzaddik, le mal n'arrive pas. Le mal dans le sens quoi? C'est qu'un tzaddik n'est pas attiré par une faute. Donc du coup, si par exemple il y a une option que tu vas faire quelque chose d'impur, le tzaddik, Dieu il fera qu'il pourra, qu'il passera même pas par cette par une possibilité qu'il le fera. Donc quand Mashiach arrivera, on sera tous des tzaddikim. Je préfère vous prévenir. Donc automatiquement, on n'y aura pas de faute. Donc puisqu'il n'y a pas de faute, ça nous servira à rien du tout d'étudier les lois de pureté et d'impureté, puisque l'impureté ne nous arrivera pas. Qui étudiera ces lois? Encore une fois, ce Révra.
Ok, donc ça veut dire, rien que pour terminer avec ce Révra, si le pauvre, juste la veille avant que Mashiach il arrive, le type, il était dans Shabbat, dans machin, dans tout ce que tu veux, dans les 612 mitzvot, pas 613 parce qu'il n'était pas...
D'accord.
620. Il passe, il bascule, il y a Mashiach qui arrive, on lui colle l'étiquette Révra, mais il est marron.
Non, un Révra, a priori, il reste toujours Révra.
Il est pas marron. Hein.
Il ne le sait pas, maintenant il va le savoir.
On ne le sait pas, non. On ne sait pas. C'est ça ce qui est abstrait.
Donc il revient en arrière.
Ça fait peur. Tu imagines toi, je suis du Révra. C'est Shalom.
Non, pas grave.
C'est impossible de savoir. Impossible.
Bon, on a beaucoup de mérite alors.
Moi, j'en connais un. Il y a
peut-être. Quoi? Il y a une teshuva, mais bon. On dit qu'il y a une présomption qu'on est Israël. Je sais pas. Je vous dis, honnêtement, je sais pas combien ils étaient. Peut-être que Révra, c'était une minorité. Peut-être qu'ils étaient 1000 personnes. Et que 1000 personnes, ça va, c'est pas énorme. Je sais pas. On sait pas comment ils étaient.
Tellement faux, ça. Mais j'avais gagné un numéro au loto, hein, putain. Oh, putain.
Ils ont plus de chance d'être Révra.
On dit qu'aujourd'hui, très souvent, quand tu as des gens qui se battent contre des tzadikim, c'est que leur neshama, quelque part, elle est liée. Mais encore une fois, c'est pas absolu.
Ils se battent comme d'une manière.
Ça va pas, des fois, t'as des gens, par exemple, qui embêtent les tzadikim.
Par dessus, oui, ils embêtent. Du peuple.
Des gens.
Physiquement?
Oui.
Comment on peut embêter, hein?
T'as des gens qui se moquent des tzadikim, par exemple, etc. T'as des gens comme ça. Moi, j'en connais.
Tu tapes les religieux comme ça, tu sais, comme ça. Tu
traites un peu aussi, hein.
C'est difficile à expliquer.
Pas en Israël, ça existe.
Il y en a partout.
Dans l'avion, il y a des gens qui veulent leur prier, les autres qui veulent les bouffer.
Bon, ça c'est différent, ça parce qu'ils se sentent, ils se sentent angoissés, c'est autre chose. Moi, je parle. Bon, ok, je sais pas. Voilà, non, je vous dis, je sais pas. Donc, peut-être après le cours, je vérifierai le mail. Peut-être qu'il va répondre. Alors, Vegam le Maasé. Ah, c'est qui le rave? Erevrav. Alors. Il a dit, il rêve, rave. Alors, vegam le mas, donc, vegam efchar vekaron vadava, sheyet ou biptimiyut à Torah, kol goufe à Torah aniglit. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, ces gens-là du rêve, rave, ils auront quand même une option.
Ah, voilà.
C'est quoi l'option qu'ils auront?
Le parachute.
Ils auront une option de venir dans les Beit Hamidrash dans lesquels tout le monde étudieront le fond de la Torah, et au travers du fond, ils comprendront la forme. J'explique tout de suite ce que ça veut dire. Il nous donne un exemple, parce que sinon on comprend pas. Kemo Avraham Avinu la Vachalom. Comme par exemple Avraham Avinu. Vous le savez, Avraham Avinu. On dit que c'est écrit dans le Midrash plusieurs fois, même dans la Gemara, que Avraham Avinu a accompli toute la Torah. Comment il a pu accomplir toute la Torah? Il a mangé les matzot, mais on n'est même pas rentré en Égypte pour y sortir. D'accord? Une grande partie des mitzot sont liées à des événements qui vont se passer plus tard. Donc comment c'est possible? Comment il a pu faire ses mitzvot?
Il a fait
j'ai compris, mais comment il peut faire une mitzvah alors que la mitzvah n'existe même pas?
Non, mais il a fait le fond.
Et que le, alors justement, le fond, justement. C'est quoi? Ah, écoutez bien. Comment il a fait Avraham Avinu? C'est qu'en vérité, Avraham Avinu, lui, il connaissait le fond de la mitzvah. Parce que le fond de la mitzvah, il a toujours existé depuis la création du monde. Et avec le fond de la mitzvah, il a essayé d'imaginer quelle est la forme de la mitzvah. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé des fois, c'est-à-dire probablement, c'est possible, que par exemple, Avraham Avinu, on lui a dit, il faut manger, je sais pas moi, il faut manger, on l'a dit à Pessah, voilà, le symbole c'est l'humilité. On sait pas comment il a illustré ça en forme. Peut-être qu'il a pensé que, nous on sait qu'il a mangé la matzah, mais bon. Peut-être qu'il s'est dit, bah si c'est l'humilité, alors ça va être un moment dans lequel je vais me travailler sur mon humilité. On sait pas comment, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que des fois, les gens de l'époque d'Avraham Avinu, ils connaissaient le fond des mitzvot que Dieu leur donnait par Ruach HaKodesh, par inspiration divine. Et des fois, au travers du fond, ils essayaient d'imaginer la forme. C'est pour ça qu'on dit par exemple que Yaakov Avinu, il mettait les tefilines. Comment il mettait les tefilines? Qu'est-ce qu'il mettait les tefilines? Comment il mettait les tefilines? Il savait que il fallait quelque chose qui soit autour du bras, à côté du bras. On dit qu'il mettait des bâtons. Mais il y avait des bâtons, il prenait un bâton, il priait à côté. Il avait, juste deux secondes, parce qu'il avait imaginé, comme la mitzvah de tefilines n'existait pas encore, parce qu'on était avant le don de la Torah. Mais il connaissait la forme de la mitzvah. Donc en se basant sur la forme, il essayait d'imaginer le fond. On est d'accord? Donc ce qu'il veut te dire par là, c'est quoi? C'est que des fois, au travers du fond, tu peux comprendre la forme. Mais c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, on voit que la majorité des cas où on l'a fait, on est passé à côté de la forme. On est passé à une autre forme complètement différente. Donc, l'option, je termine avec ça, l'option que pourront avoir peut-être les gens du Rav, une option, c'est que peut-être ils pourront assister au cours où on enseignera le fond de la Torah, et au travers des détails du fond, ils comprendront la forme. Vous me suivez? C'est déjà pas mal. C'est pas mal.
La forme, elle est on n'y est pas, nous.
Non, parce que la forme, nous, on doit l'étudier. Eux, on a dit, ils l'auront plus en réflexe. Eux, ils l'auront, nous, quand on est chargé, nous, on l'aura en réflexe, eux, ils l'auront pas. Donc, normalement, ils doivent étudier la forme. Tu dis, mais, sauf que si t'as bien compris le fond, automatiquement, tu peux t'imaginer quelle doit être la forme. On est d'accord? Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Si je sais, par exemple, que y a un concept d'offrir quelque chose à Dieu. Ça, c'est un concept qu'on a appris, voilà. La forme. Dans le fond, pardon. Tu sais qu'il y a un concept d'offrir quelque chose à Dieu. Et que Abraham a venu se faire réfléchir et dit, bon, il y a un concept qui s'appelle offrir quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? Le premier à réfléchir dans l'histoire, c'était Caïn et Hevel. Ils se sont posé la question, parce qu'ils ont appris, ils connaissaient la mitzvah en mode fond, qu'il faut offrir quelque chose à Dieu. Donc ils ont réfléchi. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut offrir? On va offrir ce qui est plus cher pour nous. Qu'est-ce qui est plus cher pour nous? C'est ce qu'on s'est fatigué pour gagner. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ben, un, il était dans les animaux, l'autre, il était dans la récolte. Donc ils ont dit, on va offrir un petit peu de notre récolte. Comment on va offrir? D'accord? Alors, un, il a dit, on va brûler, l'autre, il a dit, on va couper la tête, enfin, ils essayent de réfléchir. Ça veut dire qu'en se basant sur le fond, ils ont essayé d'imaginer la forme. Donc, des fois, quand on s'approfondit beaucoup, avec le fond, on peut avoir la forme. Mais, a priori, la majorité des gens du Erev Rav ne feront pas ça.
Alors, comment
ils font? D'accord? Eh ben, ils devront avoir des bêta-midrash dans lesquels ils auront des sessions de halakha comme nous on fait aujourd'hui. Parce que ce sera pas un réflexe chez eux. On est d'accord?
On leur donnera des cours payants. On va se récupérer.
Donc, velachen einam tzrichim la'asok ba'em ashen kem bizman ba'it sheni ayu tzrichim la'asok gam ki lo bishvil la'adat halakha l'ma'aseh ela shezehu ikar ha'avoda la'tish koach ha'sitra achara ula'alot, je vais répéter ce que j'explique à l'oral ça, ula'alot nitzotze hakdush al yedei Torah va'avoda kemo shavar mekom achar ve'achar hadvarim va'emet ha'ele. Une fois qu'on a expliqué tout ça, Yuvan etev betosefet biu, on va comprendre maintenant ce qu'on a expliqué. Araya memana dil el bemashamar ilana de tov vera. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, hein, on va comprendre maintenant ce que le Zohar avait dit. Vous rappelez? Il avait dit, il y avait l'arbre du bien et du mal. Il y avait l'arbre du mal et il y avait l'arbre que du bien. Vous rappelez? L'arbre du mal, c'était quoi? La verotte. L'arbre du bien, c'était quoi? C'était le Zohar. D'accord? Le Zohar, c'est-à-dire quand il n'y a que du bien. L'arbre du bien et du mal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'avait dit le Zohar? C'est l'étude de la Gemara. On a dit, mais comment tu peux dire que la Gemara, c'est le bien et le mal? Il y a du mal dans la Gemara? Il dit, mais non, c'est très simple. Il dit, parce que quand tu étudies la Gemara, c'est quoi ton but? Ben, ton but, justement, c'est d'essayer de trouver au travers le mal, de trouver le bien. Au travers les questions que tu auras, de trouver les réponses. C'est ça, notre travail. Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de travailler sur la forme. Au travers de la forme, tu essayes de trouver la mitzvah que tu dois faire. Alors que le Zohar, il est directement en mode fond. D'accord? Donc, il te dit, quand ma chère arrivera, automatiquement, qu'est-ce qu'on fera? On sera occupé principalement en mode fond. C'est pour ça que quand ma chère arrivera, on étudiera beaucoup moins de Gemara. Pas parce que c'est moins kadosh. Parce qu'une grande partie des choses qu'on a eu besoin des discussions très profonde des sages pour arriver à des conclusions que, avec la logique, on n'aura plus besoin de ça, parce que ça sera instinctif chez nous. Donc dès qu'on te pose la question, tu diras, mais c'est évident, elle est là la réponse. C'est évident que si j'ai soif, je dois boire. T'as pas besoin de m'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne seront plus relevantes quand on va revenir. Pourquoi? Parce que, ça sera instinctif chez nous. Par contre, ça concernera les gens de Ravrav. Donc vous voyez que, pour moi, quand je lis ce chapitre, pour moi, c'est une des raisons principales pour laquelle on attend Mashiach. Bien sûr, quand Mashiach arrivera, on aura toutes les richesses du monde, et Serge, t'auras une écurie de Ferrari. Toutes les couleurs.
Je suis engagé en cours.
Toutes les couleurs, voilà, je m'engage. Si tu te donnes pas, je les paye moi.
Nous, on sera en train de voler.
T'auras une écurie de Ferrari avec. Non, t'auras une écurie de Ferrari avec les chauffeurs à l'intérieur déjà prêts. Dès que tu sors de chez toi, moteur tournant, cherche, d'accord?
Mais non, il n'y a pas de chauffeur. Et nous, on sera en tapis volant au-dessus.
Il n'y a pas de chauffeur de Ferrari? Ah, il va la conduire, d'accord. Désolé.
Atterri.
Regarde, bon, mais t'auras la même femme, hein.
Non, d'accord.
Non, parce qu'il y a des gens, ils s'imaginent que quand Mashiach arrivera, ils auront 10 000 femmes.
Serge, t'inquiète pas, c'est quand Mashiach viendra.
Est-ce qu'il sera accompagné quand il conduira la Ferrari? Il a demandé. Non, mais laquelle des femmes? La première, la dernière? Laquelle?
Celle qui avait la caglée maintenant?
Ah, d'accord.
D'accord.
Il y avait une discussion de vie.
Donc ça veut dire quoi?
Non, on peut pas redevenir polygame.
J'ai compris sa question. Parce qu'il y a 5 jours, il peut redescendre.
C'est possible que la polygamie sera permise quand le chat viendra?
Bah oui.
Possible?
Pour les femmes aussi?
Déjà eu le
Monsieur Kojak, il fait de nous redescendre là, parce qu'il est en train de. Il s'imagine déjà la Ferrari et la polygamie. Mais Rabotai, seulement quand Mashiach arrivera, on sera tellement préoccupé par le fond des choses que la forme nous intéressera plus.
La Ferrari, tu t'en
fous. Aujourd'hui, on met toute la tête dans la forme. D'accord? La couleur et le style et la forme. D'accord? Aujourd'hui, on accorde une grande importance à la forme. Beaucoup plus qu'au fond. Quand Mashiach arrivera, la forme, ça sera instinctif chez nous. Qu'est-ce qu'on regardera? On regardera directement le fond de la chose. Et dans le fond de la chose, il y a beaucoup à étudier, comme on a expliqué. Que juste avec le fond, on a vu que des gens comme Avraham Avinu, Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte, ils pouvaient accomplir les mitzvot uniquement en mode forme. Parce que chaque mitzvah, quand tu t'approfondis sur le sens profond de la mitzvah, tu peux décoller très très haut avec ça comme ça. D'accord? Donc avec ça, on a expliqué qu'en vérité, quand Mashiach arrivera, on aura toujours la même Torah, toujours les mêmes mitzvot, mais ce sera complètement une dimension différente. Une dimension complètement différente. Au lieu de se focaliser sur la forme comme aujourd'hui, on se focalisera sur le fond. Donc ça, c'est ma réponse. Vous savez, des fois, hein, quand on fait des cours de halakha, il y a des gens, des fois, hein, qui sont un peu dérangés. Parce qu'ils disent les détails comme ça, le Shabbat on fait ci, on fait pas ci, et la noix, et la carotte, et la pistache, etc. Et dis, bon, ça pinaille un petit peu. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de formes. Et on se dit, mais attends, finalement, le judaïsme, on a toujours appris qu'il est très profond. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans la forme? La réponse est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on vit principalement avec la forme. C'est comme ça veut dire, on fait ses affaires par rapport à la forme, on choisit des objets par rapport à la forme. Tout ce qu'on fait, c'est autour de la forme, encore plus qu'avec le fond. Donc les mitzvot aussi sont autour de la forme. Il y a un fond, mais on se focalise plus sur la forme. Quand Mashiach arrivera, plus qu'on verra le fond des choses, ben là, on se focalisera moins sur la forme qui sera instinctive chez nous, et on se focalisera directement sur la forme. Voilà ce qu'on peut dire sur Mashiach.
Si tu veux un avant-goût, j'ai remarqué ça il y a 15 jours sur les Champs-Élysées, mais il paraît que ça existe depuis longtemps.
Oui, 89 euros, tu peux essayer.
89 euros, il y a 20 minutes.
Oui, il y a 20 minutes.
Vas-y. On a parlé tout à l'heure. D'accord? La mitzvah, il a pris le carreau de sucre et il a fait la matzah dessus. Il a fait la mitzvah en fond ou en forme?
En fond.
Il a fait la mitzvah en fond. Sauf que comme Mashiach n'est pas là.
Ce qui compte, c'est la forme.
C'est la forme. On n'a pas le choix.
Donc en réalité, il
faut bien faire les choses, quoi.
Tu comprends? Aujourd'hui, désolé, mais le Ibiza.
Faut aller faire joli.
Laisse tomber.
Peut-être que tu voudras un truc rouge qui roule. Fait beaucoup de bruit, puis les gens regardent.